William Pilliot qui nous fait l'amitié de participer aujourd'hui à ce cycle sur l'impiété des puissants dans le séminaire du CRAM et maître de conférences en histoire ancienne et archéologie à l'université d'Angers et membre du laboratoire Thémos. Son principal sujet de recherche, sa spécialité, je ne parlerai que de ça parce que c'est aujourd'hui le sujet qu'il va aborder, c'est l'histoire d'Ilion en Troade, c'est-à-dire l'antique et mythique Troie, la Troie d'Homère, la Troie de l'Iliade, qu'il étudie sur la longue durée depuis les origines jusqu'à la période romaine, sur le plan archéologique et bien sûr sur le plan politique et à travers les différentes traditions littéraires que cette glorieuse cité d'Ilion a suscité. Le sujet qu'il va aborder aujourd'hui est lié à l'Iliade, donc je pense qu'il va vous l'expliquer dans sa présentation. Vous savez qu'à la fin de l'Iliade, après le duel entre Hector le Troyen et Achille le Lachéen, où c'est Achille qui est tué par Hector, les Achéens, les Grecs, grâce à la ruse du cheval de Troie, qui n'est pas racontée dans l'Iliade, mais qu'on connaît par les poèmes homériques, envahissent la ville de Troie, la ville d'Ilion, et en massacrent les habitants, notamment le père d'Hector, le roi de Troie, le vieux Priam, qui est cruellement assassiné par le fils d'Achille, vengeant ainsi son père, qui est Néoptolème. Et c'est donc cet arrière-plan littéraire que les Grecs connaissent absolument par cœur, qui va donner lieu à un sujet historique, une sorte de commémoration que William Pilliot va maintenant vous présenter.
Merci beaucoup, Edith, pour cette présentation. Alors, je remercie les organisateurs de ce séminaire pour leur invitation. Et donc, je suis très heureux d'avoir l'occasion de présenter une partie de mes travaux sous le prisme donc de l'impiété. Donc, le thème de l'impiété a retenu mon attention et pour le traiter, donc j'ai souhaité reprendre un dossier documentaire que j'avais en effet eu à étudier dans le cadre de ma thèse de doctorat, consacrée, comme Madame Parmentier l'a rappelé, à Ilion et à la Confédération d'Athéna Élias. J'avais été frappé, en reprenant ce dossier documentaire, par la dimension expiatoire des sacrifices célébrés par Alexandre à Ilion lors de sa visite au printemps 334 avant notre ère. Donc je reprends ici cette réflexion en insistant, je suppose, d'abord sur le contexte général hein, pour planter le décor et sur les problèmes méthodologiques qui peuvent se poser dans l'étude de ce dossier documentaire. Dans la geste du conquérant, l'épisode de la visite à Ilion n'est pas forcément le plus connu. Mais il offre une étude de cas instructive à plusieurs égards, car il documente à la fois, si vous voulez, du plus général au particulier, d'abord les liens entre religion et politique dans le monde grec antique, et en particulier l'instrumentalisation politique de la tradition homérique, hein, donc du matériau épique lié à la guerre de Troie. Et deuxièmement, la mise en scène des relations entre roi, sanctuaire et cité, à une période charnière, hein, une période de transition entre ce que nous appelons la fin de l'époque classique et le début de l'époque hellénistique. Et du point de vue du règne d'Alexandre, eh bien, c'est le moment où le jeune Alexandre, qui a encore tout à prouver, peut mettre en place les éléments de ce que nous pouvons appeler une propagande, un discours politique officiel, une mise en scène de sa propre personne. Et la mise en scène par Alexandre de sa conquête présentée comme une libération, au moment critique du débarquement en Asie, et donc à un moment où l'affrontement militaire n'a pas encore eu lieu face à l'Empire achéménide, donc au tout début de l'expédition militaire, eh bien, peut nous interpeller parce qu'au cœur de ce dispositif, il y a le souci d'une mise en scène de l'expiation d'un état d'impiété, ACBIA, c'est un terme que Serge Bardet a évidemment sollicité et commenté tout à l'heure, hein, et que nous retrouvons ici, qui pèse sur Alexandre du fait de sa filiation héroïque revendiquée, donc ce qui nous occupe principalement aujourd'hui. Du point de vue du contexte géographique, on peut reprendre ici cette carte hein, tirée de l'Atlas du monde hellénistique de Lauriane Martinez-Sey. Vous avez les étapes de l'expédition d'Alexandre en Asie mineure. Donc Alexandre franchit le détroit de l'Hellespont hein, entre Sestos et Abydos, puis il descend à Ilion, juste au sud. C'est donc hein, les premiers pas de l'armée macédonienne, de l'armée gréco-macédonienne en Asie mineure. La région de Troade est marquée dans son identité même par la mémoire de la guerre de Troie, mémoire partagée par différentes cités de la région, mais principalement revendiquée par Ilion. Donc vous avez ici une vue d'ensemble de la Troade avec les différentes délimitations proposées par les différents auteurs anciens, telles que ces délimitations sont rappelées dans la géographie de Strabon, au tout début, dans le préambule du livre 13, qui est consacré à l'Asie mineure, et la première partie de ce livre, 13.1, est consacrée à la Troade. Strabon discute justement la question des frontières, des limites géographiques de la Troade, et pour ce faire, il reprend le texte homérique, ce qui montre que l'identité de cette région est, encore à l'époque de Strabon, entièrement fondée sur le texte homérique. Et dans ce dispositif mémoriel, donc, Ilion occupe une place centrale, si je vous propose à présent un gros plan ici, donc dans la vallée du Scamandre, le site d'Ilion, vous le voyez, il commande le passage de l'Hellespont, il a donc aussi un lieu, il a une dimension géostratégique majeure qui explique également, hein, il y a évidemment des enjeux militaires également, que Alexandre s'y attarde après le débarquement qui le mène de Dardanos à Ilion. Alors l'épisode est assez bien documenté et surtout il a été abondamment commenté. Donc je présente ici le dossier documentaire, les sources sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Il y en a quatre principales, hein, donc Diodore de Sicile dans sa bibliothèque historique, livre 17, paragraphe donc 17.3.18.1. Alors à chaque fois, je fais quelques rappels sur la nature de l'œuvre et puis le lien qu'elle peut entretenir avec le sujet. Hein. Donc, Diodore de Sicile rédige une histoire universelle. C'est un événement parmi beaucoup d'autres qu'il rapporte. En revanche, Diodore de Sicile a pour nous un intérêt majeur. D'abord, cette histoire universelle qui n'est pas toujours la mieux informée et qui multiplie assez souvent les confusions est importante pour les questions de datation. Et de datation assez fine, puisque Diodore date donc, il date à la fois par le calendrier romain des consuls et par le calendrier athénien, par l'archonte éponyme, et également parfois par Olympiade, c'est ce qu'il fait ici. Et donc on a on peut recouper ces informations et obtenir grâce à lui une chronologie fine. L'affaire est importante parce que justement on a une contradiction au sein du dossier documentaire de ce point de vue. Par ailleurs, Diodore est très sensible et a un goût pour les mirabilia, les anecdotes. Il est très sensible aux références mythologiques et donc l'action d'Alexandre à Ilion l'intéresse tout particulièrement. Il offre d'ailleurs des détails que pour certains, on ne trouve pas dans les autres auteurs. Ensuite, si on se tourne vers Plutarque, donc dans ses vies parallèles, rédige une vie d'Alexandre, qui est évidemment une source très importante pour nous. La visite d'Alexandre à Ilion est rapportée donc en 15.7.9. Plutarque n'est pas un historien, c'est entendu, mais il puise à des sources très fiables, qu'il cite nommément, c'est aussi l'avantage que nous offre Plutarque, et son témoignage recoupe remarquablement celui de Diodore. Donc de ce point de vue, on peut considérer que c'est assez rassurant. Strabon, quant à lui, que nous avons déjà évoqué tout à l'heure, hein, donc dans sa géographie, livre 13.1, au moment où il décrit la Troade, eh bien, lorsqu'il décrit les différents sites, comme c'est la méthode de Strabon, hein, c'est ce qui fait que c'est à la fois pour nous une source géographique et historique, bien sûr, comme tout bon géographe, il prend en compte l'histoire du lieu et donc il fait un panorama des principaux événements qui ont déterminé l'histoire de telle ou telle cité. Et donc, il évoque l'événement qui nous importe au moment où il parle d'Ilion. Or, justement, il en parle d'une manière qui est très particulière. Son témoignage se distingue des autres. On peut le mettre à part. Et il faudra donc expliquer cette discordance. Et enfin, Arien, donc dans l'Anabase d'Alexandre. Donc là, c'est un ouvrage par rapport aux autres, hein, qui est entièrement consacré à l'expédition d'Alexandre. Donc, Arien et Plutarque, si vous voulez, sont ceux qui sont le plus détaillé sur le règne d'Alexandre. Et Arien dans l'Anabase d'Alexandre, donc en 1.11.8.12.1, reprend également les données qu'on trouve chez Diodore et chez Plutarque. Il y ajoute quelques informations particulières qu'il a puisées sans doute dans des sources que peut-être Diodore n'avait pas, auxquelles Diodore n'avait peut-être pas eu accès. Notamment le journal de campagne de Ptolémée, fils de Lagos, le futur Ptolémée Ier, fondateur de la dynastie Lagide, compagnon d'Alexandre, et qui, nous le verrons, apporte un témoignage important également sur cette affaire. Voilà les quatre témoignages principaux. On peut y ajouter quelques fragments, des fragments de l'ouvrage donc Héroïkos sur les héros de Philostrate, 20-28, 210 dans la nomenclature Kaiser, donc c'est un passage très bref, mais qui apporte une information complémentaire également et qui recoupe le témoignage de Diodore. Là encore, c'est assez rassurant. Et puis, une citation très brève qu'on peut trouver dans l'épitomée de Justin 11.5. Alors, si donc on cherche à faire l'analyse du dossier documentaire, le corps du récit est sans doute donné par Diodore de Sicile, donc pour la datation, pour la suite des événements, l'ordre des événements, donc débarquement d'Alexandre en Troie. Je peux peut-être vous mettre le texte directement. Voilà. Débarquement d'Alexandre en Troie, avec donc mise en scène héroïque, recours au droit de la lance, nous reviendrons sur cette expression, visite des tombeaux héroïques et revue des troupes. Les tombeaux héroïques, ce sont des tumuli, ce sont des sites de Tel, hein, TE2L, des sites archéologiques bien nombreux en Troade et en Lydie, qui sont considérés comme des tombeaux héroïques de la guerre de Troie par les Grecs. Et puis au moment du départ pour la bataille du Granique, un épisode que Diodore rapporte, hein, la statue du satrape qui est tombée à terre et qui est considérée comme un présage, qui entraîne donc des sacrifices à Athéna Elias et des échanges de boucliers. Quelque chose que nous avons vu dans la communication précédente d'ailleurs, hein, des boucliers sont consacrés dans le temple et en échange, Alexandre prend un bouclier de la guerre de Troie qui était conservé dans le temple d'Athéna Elias. Et tout cela donc précède le premier affrontement militaire, la bataille du Granique. Strabon propose une chronologie différente. Il place l'événement après la bataille du Granique, alors ce qui change considérablement le contexte. L'offrande au sanctuaire et les faveurs accordées à Ilion, qui sont détaillées par Strabon, interviennent donc comme une récompense octroyée par Alexandre en reconnaissance de l'aide accordée par Athéna Elias. Donc c'est une lecture très différente des événements. Et Strabon fait également mention d'une lettre envoyée après la victoire contre les Perses, il faut peut-être comprendre aussi après la victoire définitive, une lettre envoyée de Babylone, donc au moment, à la fin du règne d'Alexandre. Et donc, Strabon offre donc une chronologie différente, des précisions supplémentaires, une interprétation discordante et une perspective plus large également. Plutarque, quant à lui, insiste sur le sacrifice à Athéna Elias et les libations aux héros, nous reviendrons là-dessus. Il détaille la mise en scène des sacrifices sur le tombeau d'Achille et les paroles rapportées, nous reviendrons là-dessus. Donc on peut y voir une mise en scène héroïque du corps même d'Alexandre et une référence à Homère. Arien, enfin, est le plus précis, sans doute parce qu'il puise donc à des à des sources comme le journal de marche de Ptolémée. Il revient sur les sacrifices à Athéna, sur la question de l'échange des armes, plusieurs boucliers désormais, et Alexandre n'est plus le seul dans la version d'Arien, mais ses boucliers donc, qui datent de la guerre de Troie sont portés désormais non seulement par lui, mais aussi par les hypaspistes, sa garde rapprochée. Et Arien mentionne donc le sacrifice expiatoire à Zeus Erchéos. C'est une précision supplémentaire par rapport aux autres auteurs qui nous intéressent donc nous tout particulièrement. Arien apporte aussi des mentions d'ordre militaire qui nous intéressent moins ici, mais qui montrent à quel point il est bien documenté. La mention de la présence d'Athéniens, Ménoïtios et Charès d'Athènes, venus de Sigéion, qui est en effet une possession, une possession athénienne en Troie. Donc il y a là une grande cohérence qui renforce la crédibilité du témoignage d'Arien. Arien mentionne également les honneurs rendus sur les tumuli, les tels, donc considérés comme tombeau d'Achille et de Patrocle, et les paroles rapportées, comme Plutarque, donc, hein, mais là encore avec un peu plus de précision. Donc, ce qu'on peut retirer de cette analyse hein, en introduction, ce sont des témoignages globalement complémentaires et en partie discordants, notamment sur la chronologie et l'interprétation. On peut mettre Strabon à part et tous les autres ensemble. Donc, au printemps de 334, au moment où le jeune roi macédonien, hein, Alexandre III, qui n'est pas encore Alexandre le Grand, débarque en Troade dans l'intention de porter la guerre en Asie contre l'Empire achéménide, on peut dire que tous les yeux sont tournés vers lui et qu'il a tout approuvé. Outre les enjeux militaires, qui pèsent évidemment sur les événements, il sait que son attitude vis-à-vis des premières cités grecques rencontrées sera scrutée, observée. Ilion est une petite cité par la taille de son territoire, mais elle est très importante par le prestige culturel qu'elle retire de sa filiation revendiquée avec la Troie de Priam. Les sacrifices célébrés par Alexandre à Ilion ont frappé les contemporains, et ils ont suscité l'intérêt des commentateurs postérieurs. La plupart d'entre eux se sont focalisés, à juste titre, ça je ne nie pas la pertinence hein, de cette analyse, sur la dimension de propagande politique des sacrifices célébrés à ce moment par Alexandre, alors qu'il est sur le point d'entamer une guerre qui s'annonce difficile, hein, c'est un pari évidemment très, très risqué, et qu'il cherche donc à rassurer les cités grecques d'Asie mineure quant à ses intentions à leur égard. Et donc, moi ce qui m'intéresse c'est, par rapport à cet événement et aux sources qu'il documente, bah, c'est de proposer d'inverser la perspective habituellement adaptée, à savoir réfléchir à la signification de ces sacrifices, non pas seulement du point de vue d'Alexandre, mais aussi en prenant en compte la cité d'Ilion. C'est le point de vue en général civique qui est délaissé par les commentateurs. En effet, il me semble qu'il y a là un point de convergence. La visite d'Alexandre le Grand à Ilion, d'Alexandre III à Ilion, constitue en effet un moment clé de l'histoire de la cité et du sanctuaire d'Athéna Ilias. Et donc, l'interprétation que j'en propose, la problématique que je propose, si vous voulez, hein, comment expliquer et interpréter les divergences factuelles au sein du dossier documentaire, ça dans une perspective méthodique, si vous voulez, un peu positiviste. Il faut d'abord essayer de trouver une réponse pour expliquer cette discordance. Et ensuite, en renversant donc la perspective traditionnellement adoptée, peut-on proposer une interprétation différente des sacrifices célébrés par Alexandre à Ilion? Donc, pourquoi, à ce moment précis de son règne, alors qu'on pourrait considérer qu'il y a autre chose à faire, expier publiquement les crimes de Néoptolème? La propagande locale organisée par les Iliens, les habitants d'Ilion, autour de leur cité et de leur sanctuaire, et celle orchestrée par Alexandre et son entourage autour de la personne du roi, se rejoignent, me semble-t-il, à cette occasion, dans une heureuse conjonction d'intérêts bien compris de part et d'autre, ce que les Grecs appelleraient un kairos à saisir. Donc, si vous voulez, le plan que l'on peut suivre ici, c'est d'abord essayer de régler la question des discordances factuelles au sein du dossier documentaire, puis s'interroger sur la signification des sacrifices du point de vue d'Alexandre, et enfin la signification des sacrifices du point de vue d'Ilion. Donc moi, si vous voulez, du point de vue de l'historique de mes recherches, c'est la troisième partie qui m'avait davantage intéressé, mais ici, c'est sans doute la deuxième que je détaillerai davantage, et la troisième aura pour but de mettre en perspective les conclusions de la deuxième. Alors, pour ce qui est donc de cette question des discordances factuelles, d'abord, avant ou après la bataille du Granic. Donc, si l'on confronte hein, les différents témoignages, on constate que le témoignage de Strabon est isolé. Il est isolé et cela pose problème parce que Strabon est un auteur bien informé par ailleurs. Et cette séparation du témoignage de Strabon par rapport aux autres, elle se retrouve aussi dans d'autres domaines relatifs à Ilion. C'est ce que j'aimerais rappeler ici, c'est ce qui n'a pas toujours été fait dans le cadre de l'étude de ce dossier documentaire, puisque en général, les gens qui travaillaient là-dessus, c'était les historiens d'Alexandre, en quelque sorte, donc des historiens d'histoire militaire qui voulaient absolument savoir, donc avant ou après la bataille du Granic. Bon, alors, donc, tout le monde la place avant, hein, tout le monde place la visite à Ilion avant la bataille du Granic, sauf Strabon, et cela sert à Strabon à proposer une interprétation différente hein, des autres. Bon. De même, on peut dire que Strabon se distingue aussi du reste de la tradition classique en rejetant le principe d'identité entre la cité grecque d'Ilion et la Troie homérique. Strabon, en effet, pose une dichotomie Ilion-Troie. Il considère que la cité grecque d'Ilion est une cité qui n'est pas construite sur les ruines de la Troie homérique, contrairement à ce qu'elle revendique, mais que c'est une construction postérieure et à un autre endroit. Donc on retrouve ici hein, le même souci de distinguer et le temps et le lieu. Alors, donc si on reprend ici le témoignage de Strabon, hein, d'abord, donc on peut relever que Strabon renie même à Ilion le titre de cité. Ten deton Ilion, Pauline, ton nun, théos, men, comen, einai, facit, oieron, ekousan, tes, athénas, micron, kai, eteles. On rapporte que l'actuelle cité des Iliens n'était encore qu'un simple village, une comène, hein, ne disposant que d'un sanctuaire d'Athéna, modeste et de petite taille, au moment où Alexandre s'y rend. Et il s'y rend, n'est-ce pas, après sa victoire du Granic, hein, meta, ten, epi, granicou, niken. Donc il y a là un enjeu majeur parce que c'est l'identité même de la cité d'Ilion, l'identité politique hein, au sens étymologique qui est niée par Strabon. Et cela peut-être justement nous donne la piste de résolution de cette discordance. En effet, si on se tourne vers d'autres extraits du livre 13 de la géographie, lorsque Strabon s'intéresse à Ilion, il systématiquement, et il y revient de manière assez lourde, à vrai dire, à plusieurs reprises, il cherche systématiquement à distinguer donc l'Ilion grec de la Troie homérique. Ainsi, en 13.1.35, donc dans la nomenclature Casaubon C597, un peu au-dessus de celle-ci, c'est-à-dire de la plaine du Scamandre qu'il vient de détailler, est le village, vous voyez à nouveau le terme de comè hein, qui est employé, le village des Iliens hein, est ton Ilion comè, à l'emplacement duquel on pense qu'était jadis l'ancien Ilion, distant de 30 stades de la cité actuelle. Il y a donc ici, chez Strabon, hein, vous voyez, la distinction nette entre comè et polis. Donc, ancien Ilion, nouvel Ilion. De même, un peu plus tôt, donc je fais des citations qui ne sont pas dans l'ordre de l'auteur, c'est dans l'ordre de la réflexion que je vous propose, en 13.1.25, Strabon, dans un excursus assez complexe, qui a souvent dérouté les commentateurs, reprend une idée platonicienne, au fond, du progrès de la civilisation comme descendant de la montagne pour arriver vers les rivages. Kayaloi de historusi pleius metabe blekenai topus ten pauline ustata den tota summeinai katakroison malista. Et d'autres affirment après enquête que la cité, donc la cité d'Ilion, a plusieurs fois changé d'emplacement et s'est finalement fixée définitivement à cet endroit à l'époque de Crésus. Crésus le Lydien. Ce qui pose la question donc de l'identité grecque même de cette fondation. Est-ce que c'est une migration qui a eu lieu à l'époque de Crésus, ou est-ce qu'elle est à l'origine même des Lydiens? Est-ce que c'est une fondation lydienne? Alors, avec cette seule citation, l'idée peut paraître incongrue, mais si on prend maintenant 13.1.42, « Epideton ludon enun ectiste kataikia kaito hieron, ou men polis geen. » Sous les Lydiens, ou alors, « Epideton
On va trouver la connexion.
D'accord.
Bon. Bon.
Alors du coup, je sais
voilà,
pas
exactement.
À l'origine midienne. Enfin, moi, ça s'est coupé au moment où tu évoquais l'origine lydienne d'Ilion.
Selon Strabon. Oui, d'accord. Alors, oui, donc donc j'avais continué à parler un peu dans le vide, sans doute. Donc j'en venais en fait à. Alors attendez, je ne sais plus si. Monsieur Gauthier.
Alors attendez, je vais vous redonner la main parce que voilà, il se trouve que j'imagine. Voilà, vous êtes plus présentateur.
Voilà, je crois que c'est bon à présent. Ouais, c'est bon. Ok.
Allez-y, merci.
Voilà. Donc j'en venais à l'explication de cette théorie très particulière de Strabon, qui tire en fait son témoignage relatif à Ilion d'un auteur de Troade, Démétrios de Skepsis. Démétrios de Skepsis, donc Skepsis c'est une cité voisine d'Ilion qu'on peut retrouver sur cette carte ici, vous voyez, en amont d'Ilion, donc dans le massif de l'Ida, ce qui rend la remarque de Strabon plus claire, elle lui donne sens, c'est que Skepsis en fait est la véritable Troie. Selon Démétrios de Skepsis. Et donc, on touche ici à un enjeu de dispute mémorielle entre les cités de Troade quant à la filiation troyenne. Et donc, tout se tient de ce point de vue-là parce que finalement, le fait de rejeter l'idée que Alexandre se serait rendu d'emblée à Ilion pour expier, donc, ce qui nous importe ici, la qu'il porte du fait du sacrilège de son ancêtre Néoptolème, s'explique par la volonté de nier l'identité troyenne d'Ilion. Et cela s'explique par la source principale de Strabon pour la Troade, qui est donc Démétrios de Skepsis. À titre d'argument complémentaire pour cette interprétation que je propose, on connaît une troisième autrice, Histiaia d'Alexandrie de Troade, qui elle aussi dénie à Ilion cette identité troyenne pour justement faire de sa cité d'origine, là encore, l'héritière de la Troie homérique, Alexandrie de Troade. Alors même que, on le sait, Alexandrie de Troade est une fondation beaucoup plus tardive. Ce n'est d'ailleurs pas une fondation d'Alexandre, comme son nom pourrait l'indiquer. Hein, c'est une fondation qui rejoint les conflits entre Diadoque, entre Antigone le Borgne et Lysimaque. Mais je ne développe pas ici cette question. Alors, si on cherche la vérité, savoir qui a raison dans ces jeux de propagande, les Iliens, la version des Iliens a été confirmée par l'archéologie. L'identité entre les ruines de l'âge du bronze, que depuis Schliemann, donc, on considère comme correspondant à la Troie homérique, eh bien, elle a été démontrée par l'ensemble de la documentation archéologique mise au jour sur le site d'Issarlok. Ici, ce que vous voyez au premier plan, cette route qui est au pied du tel, c'est la ligne de côte antique. C'est là qu'ont débarqué, selon Homère, les Achéens. Et donc, la chose est bien connue, je ne la détaille pas en détail ici, bien sûr, la stratigraphie complexe du site révèle un empilement de 9 cités successives. Donc, l'Ilion de la fin du 4e siècle que Alexandre visite, donc c'est 3-8, eh bien, elle se trouve totalement superposée à des niveaux plus anciens qu'on peut voir ici. Et notamment au niveau 3-6, considéré traditionnellement, s'il faut avoir une lecture positiviste de la chose, comme le niveau de la guerre de Troie. Et bien sûr, je ne rentrerai pas dans ces questions. Si on cherche à imaginer ce qu'Alexandre a pu voir en se rendant sur le site, ça c'est plus intéressant peut-être, on peut ici en avoir un aperçu peut-être frappant. Nous sommes donc à la limite de l'agora et de l'espace sacré du Témenos Athénaélias, qui est à droite, vous voyez, le mur de soutènement, le Témenos Athénaélias, de 3-8, donc 4e siècle, et de l'autre côté, le mur est de la citadelle de 3-6, avec ces ressauts caractéristiques de l'architecture de 3.6 qui vont très bien avec la description de la Troie de Priam dans les poèmes homériques, hein, et notamment ce sur quoi Achille s'agrippe pour essayer d'escalader les murs dans sa furie guerrière. Donc, entendons-nous, il ne s'agit pas ici de revenir sur la question de l'historicité de la guerre de Troie, mais le scénario est tout à fait plausible à l'époque d'Alexandre, qui se présente comme nouvel Achille, nous allons le voir dans un instant, lorsqu'il se rend à Ilion au vu des ruines en l'état à cette époque. Et donc, tout cela rend tangible, très concret, les traditions mythiques liées donc à l'énagisma que nous allons détailler à présent. Donc, deuxième partie, la signification des sacrifices du point de vue d'Alexandre. Oui, au moment de la coupure, pardon, c'est pareil, excusez-moi de revenir juste sur un point à propos de l'aspect civique, hein, au moment de la coupure de connexion, j'avais évoqué aussi le décret de la cité d'Ilion pour Ménélaos, donc ça c'est un document épigraphique daté de 360-359, je ne reviens pas ici sur les détails de datation, dont je propose ici la traduction, l'édition et la traduction, et qui montre que dès cette époque, les Iliens accordent des privilèges donc à un Athénien qui est honoré par la cité d'Ilion. Ce sont, je dis la cité, parce que les privilèges de proxénie et des vergettes ne peuvent être décernés que par une cité, d'autant plus qu'ils sont décernés en récompense d'honneurs qui sont relatifs à la liberté, hein, l'éleutéria, donc valeur civique par excellence. Donc le témoignage de Strabon est aussi contredit par l'épigraphie. Donc il s'explique principalement en fait par sa source Démétrios de Skepsis et donc sa volonté de nier le lien qu'Alexandre veut créer avec Ilion lorsqu'il arrive. Donc, une fois mis de côté la question de la, si ce n'est réglé, la question de la discordance de notre dossier documentaire, passons donc à la signification des sacrifices du point de vue d'Alexandre. Alors Alexandre est présenté comme un nouvel Achille, hein. C'est quelque chose que vous connaissez sans doute, c'est très banal. La tradition homérique est récupérée par Alexandre dans une généalogie mythique revendiquée, hein, Achille, Néoptolème. C'est une mise en scène soignée qui prépare l'héroïsation du corps du souverain. On peut aller au-delà. Cette visite à Ilion, elle doit d'abord être replacée dans le contexte plus général de l'habile théâtralisation par Alexandre de son passage en Asie. En effet, dès sa traversée de l'Hellespont, celui-ci montre un grand souci de mise en scène héroïque de sa conquête. Il y a d'abord l'épisode de la lance fichée dans le sol d'Asie et le fait qu'Alexandre conduise lui-même son navire, puis saute le premier sur le sol. Donc tout cela inscrit cette traversée dans la tradition homérique, parce qu'Alexandre, ce faisant, il imite non seulement Achille, mais également Agamemnon et Protésilas. En effet, comme Agamemnon, Alexandre est le chef de l'expédition, et il saute le premier sur le sol d'Asie, comme le fougueux Protésilas dans l'Iliade, à qui il vient de rendre hommage d'ailleurs. Et là, ça c'est un point important, je crois, parce que avant même de franchir les détroits, Alexandre s'est rendu dans le sanctuaire, dans l'Héroïne de Protésilas, à Éléonde de Carsonèse. Donc, vous voyez que ce n'est pas forcément unique ce qui se passe à Ilion. Ça peut être replacé dans une politique de mise en scène de la mémoire homérique par Alexandre dès son passage en Carsonèse de Thrace. Et comme Achille, enfin, Alexandre conduit son propre navire. De plus, planter sa lance dans le sol ennemi constitue également une claire revendication de conquête qui s'inscrit dans les coutumes macédoniennes. Hein, par ce geste symbolique, le roi prend possession du territoire conquis en tant que cora basilicae, hein, c'est en vertu du droit de conquête par la lance, le dorictetos, qu'on connaît bien par ailleurs. Il s'agit donc à la fois pour Alexandre de rejouer l'Iliade et d'affirmer son autorité sur le nouveau continent en passe d'être conquis. Or, c'est souvent dans cette seule perspective que les commentateurs modernes interprètent les cérémonies religieuses organisées par Alexandre lors de son passage en Troade, en insistant particulièrement sur l'hommage rendu au tombeau d'Achille, d'Ajax et de Patrocle. On peut se tourner ici vers le témoignage de Plutarque. Il monta à Ilion où il offrit un sacrifice à Athéna et des libations aux héros. Sur le tombeau d'Achille, après s'être frotté d'huile et avoir couru nu selon l'usage avec ses compagnons, il déposa une couronne. « Heureux es-tu, s'écria-t-il, d'avoir eu de ton vivant un ami fidèle et après ta mort un grand héros pour te célébrer. » C'est-à-dire Homère. Comme il parcourait et visitait la cité, on lui demanda s'il voulait voir la lyre d'Alexandre. Il répondit, cette lyre-là ne m'intéresse guère, mais je voudrais trouver celle d'Achille sur laquelle il chantait la gloire et les hauts faits des hommes de cœur. Donc de ce passage assez célèbre de Plutarque, hein, on a souvent retenu le dédaigneux refus par Alexandre de la lyre de son homonyme, Paris Alexandre, hein, Paris le fils de Priam, mais celui qui est considéré comme le responsable de la guerre de Troie, n'est-ce pas, par le rapte d'Hélène. Ce qui a amené certains à voir dans ce geste un rejet de Paris et des Troyens en général. Alors là, il y a toute une bibliographie abondante que je pourrais vous citer. Or, cette réplique d'Alexandre me semble moins un rejet des Troyens qu'une sorte d'apophtègme visant à mettre en scène à nouveau son zèle à imiter son ancêtre Achille, comme on l'a vu dans les épisodes précédents de son arrivée. On peut ainsi rapprocher cette réplique de celle qu'Arien prête à Alexandre au sujet du même Achille dans un autre passage. Et c'est sans doute bien là l'objectif d'Alexandre à ce moment, à la veille de ses premières batailles. Il ne faut sans doute pas interpréter ses paroles comme un rejet des Iliens et de leurs ancêtres Troyens. Les bienfaits accordés à la cité et au sanctuaire au lendemain de la bataille du Granique, d'ailleurs, contredisent cette interprétation. Et surtout, c'est à nouveau se focaliser sur la seule visite d'Alexandre et Ilion. Parce que on peut rappeler qu'Alexandre s'inscrit aussi dans une continuité de visites d'armées de passage à Ilion. Il y a d'illustres prédécesseurs. Ici, je vous propose un tableau récapitulatif de chefs d'armée ordonnant un sacrifice à Ilion au moment de passer les détroits, que ce soit d'est en ouest ou d'ouest en est. En 480, c'est le grand roi perse Xerxès. Hein. L'épisode est raconté dans Hérodote 7:43. En 411, c'est Mindaros, un spartiate donc venant d'Europe et lançant une offensive contre les Athéniens réfugiés en Troie, notamment ceux de Sigéion qu'on a évoqué tout à l'heure. En 334, c'est donc Alexandre le Grand. Et puis, on pourrait aller au-delà aussi. Hein. Alexandre n'est pas le dernier. En 191, c'est Antiochos III, c'est le site venant d'Asie, au moment de la guerre antiochique. Et puis, quelques mois plus tard, en 190, c'est Scipion, qui, lui, vient de l'autre côté et qui poursuit, en fait, Antiochos III. Donc, il y a là, vous voyez, que vous veniez d'Europe ou d'Asie, il y a des allers-retours qui, à chaque fois, sont marqués par des sacrifices très particuliers à Ilion, à Athéna Ilias, et la question se pose également à d'autres héros. De ce point de vue, donc, j'aimerais qu'on, pour mettre en perspective le sacrifice d'Alexandre à Ilion, qu'on le compare avec celui de Xerxès. Donc le témoignage d'Hérodote, c'est le seul hein, que nous avons à notre disposition. Je reprends ici la traduction de Philippe le Grand en la modifiant seulement sur un point. Donc quand Xerxès fut arrivé sur les bords de ce fleuve, hein, le Scamandre, il monta à la Pergame de Priam qu'il avait un grand désir de voir. Après l'avoir contemplé et s'être fait tout expliquer en détail, notez la tournure passive ici qu'on retrouve aussi pour Alexandre et qu'on pourra commenter tout à l'heure, il offrit à Athéna Ilias un sacrifice de 1000 vaches. Alors, le grand traduit par bœuf. Et alors en effet ici, comme on n'a que bous, on n'a pas l'article, on pourrait traduire par bœuf, mais on sait par l'épigraphie que ce sont des vaches qu'on sacrifie à Athéna Ilias. Hein, donc il n'y a pas d'ambiguïté, ce sont des vaches. Et les mages, Oimagoi, dont Serge Bardet a parlé tout à l'heure, vous savez, vous vous souvenez, les magiciens, les mages perses, hein, les voilà. Les mages firent des libations en l'honneur des héros. Donc ici, héros aussi, en l'honneur des héros. Quels sont ces héros? La plupart des commentateurs considèrent que ce sont les héros troyens, et que donc Xerxès lui aussi rejoue la guerre de Troie, il venge Troie. Mais Hérodote ne dit rien de tel. On peut très bien considérer que ce sont les héros de la guerre de Troie en général, dans leur ensemble, Achéens et Troyens. Et cela irait bien avec la volonté de Xerxès de s'acclimater de nombreuses cités grecques qu'il veut comme alliés et de nombreux lieux de culte hein, du monde grec, à commencer par le sanctuaire d'Apollon à Delphes. Hein, donc c'est ces actes d'évergétisme envers des lieux de culte grecs par un souverain barbare peuvent être eux aussi mis en série. Eh bien Alexandre, il s'inspire peut-être de Xerxès ce faisant. Et dans ce cas-là, ce ne serait pas seulement le nouvel Achille. Voyez-vous, ce serait déjà celui qui construit ce prolongement du pouvoir achéménide. Darius dans l'ombre d'Alexandre, hein, c'est la thèse de Pierre Briand. On pourra revenir, si vous le souhaitez, sur ces questions. Elles ne sont pas hors sujet pour ce qui nous importe, parce que justement, la mise en scène donc, du sacrifice expiatoire, elle doit être comprise dans cet ensemble de références mythiques et historiques. Donc si vous relisez à présent le texte de Plutarque, vous pouvez voir le lien peut-être avec la visite de Xerxès. Alexandre se présente donc non seulement comme un nouvel Achille, mais comme un libérateur des cités grecques d'Asie. À travers Ilion, c'est l'ensemble des cités grecques d'Asie mineure qui sont visées. Exemple, par exemple, quelques mois plus tard, hein, à Priène, on dispose d'une dédicace d'Alexandre dans l'Athénaïon de Priène, encore une Athéna qui est honorée par Alexandre. Donc, comme je vous le disais en introduction, il y a un enjeu géopolitique ici. Et c'est donc le dernier point de cette deuxième partie, hein, petit c, un conquérant qui se présente comme un réconciliateur, c'est la thèse que je propose, d'où le sens à donner au sacrifice expiatoire célébré sur l'autel de Zeus Herkaios. Donc si l'on renverse le point de vue généralement adopté, en délaissant Alexandre pour s'intéresser aux Iliens eux-mêmes, le passage de Plutarque nous présente l'effort entrepris par cette cité pour attirer l'attention du conquérant de passage. Celui-ci, en effet, est promené dans le sanctuaire et dans la Cora d'Ilion, jusqu'au tombeau d'Achille, l'Achilleion. Et promené par qui? Comme pour Xerxès, quelle est cette tournure passive? Qui lui montre cela? Qui lui apporte la lyre? Ce ne sont pas, c'est pas l'entourage d'Alexandre, ce sont des guides touristiques iliens qui sont en mesure de montrer ces objets présentés comme des objets archéologiques datant de la guerre de Troie. Cela expliquerait la tournure passive théastale employée par Plutarque et qu'on retrouve dans le texte d'Hérodote. Le sacrifice célébré par Alexandre sur la tombe d'Achille n'est pas non plus une innovation du Macédonien. Hein. Il s'inscrit au contraire dans la continuité du culte héroïque célébré en ce lieu par la cité d'Ilion. C'est aussi un point important. Et ça, on le sait notamment, comme quoi les fragments, par le fragment de Philostrate. Donc ça, c'est l'intérêt du fragment de Philostrate. De même, quand on y pense, le fait que les Iliens osent présenter à Alexandre un objet ayant appartenu à Paris, c'est-à-dire Paris, le meurtrier d'Achille, pourrait paraître très étonnant, très maladroit. Hein, cette audace, elle sent à première vue une étonnante maladresse diplomatique. La première hypothèse permettant d'expliquer ce geste tient dans l'homonymie entre les deux Alexandre. C'est pas un hasard que Paris soit dénommé Alexandre dans cette apostrophe. Hein. Mais l'initiative des Iliens, elle resterait tout de même audacieuse et quelque peu incongrue si nous n'avions d'autres indices, des raisons qui peuvent les pousser à agir ainsi. Or, il faut, pour repérer ces indices, délaisser l'interprétation traditionnelle qui présente Alexandre à Ilion comme le simple successeur d'Achille. De même qu'en sautant le premier à terre, mais en restant en vie, Alexandre dépasse l'exploit de Protésilas, que je vous rappelle que Protésilas, il saute le premier, puis hop, il meurt. Hein. De même, en organisant des sacrifices à Ilion, Alexandre, il dépasse Achille. Car il ne se présente pas seulement comme un nouvel Achille conquérant, mais comme un réconciliateur et un bâtisseur. Pour défendre cette hypothèse, on peut reconsidérer l'expression donc Etusete Athéna Kaitois Erosin Espaisse, employée par Plutarque en la croisant avec le récit de Diodore. Alors, est-ce que je peux mettre la citation de Diodore? Alors, pardon. Il faudrait revenir tout au début du diaporama. Excusez-moi. Donc, contrairement à l'interprétation traditionnelle qui ne voit dans ces sacrifices qu'un hommage au héros achéen, l'expression kaitois alois est assez générale pour pouvoir également inclure les héros troyens, de même que les tois hérosines mentionnés par Plutarque. Ainsi, Alexandre et les Iliens s'entendent dans une célébration commune et réconciliée des héros des deux camps. Rien ne prouve mieux, selon moi, ce souci de réconciliation que le sacrifice célébré par Alexandre en l'honneur de Priam sur l'autel de Zeus Archaios. Le terme énagisma, que l'on retrouve chez Arien, donc traduit par sacrifice funèbre, par exemple, dans le passage de Diodore, précédemment cité. Au sujet des hommages rendus par Alexandre aux héros de la guerre de Troie, il appartient au champ lexical propre au culte héroïque. Il a également le sens de sacrifice expiatoire, comme le rappelle l'adjectif énagès, sous le coup d'une malédiction. Et donc, c'est précisément ce deuxième sens, sans doute, qu'il convient de prendre en compte dans le cas du sacrifice célébré par Alexandre en l'honneur de Priam. Ça, c'est le texte d'Arien que vous avez sous les yeux, 11-8. L'histoire rapporte qu'il sacrifia aussi à Priam sur l'autel de Zeus Herkaios, afin de détourner par des prières, c'est vraiment apotropaïque, le ressentiment de Priam contre la race de Néoptolème à laquelle il appartenait. Alors, nous sommes au cœur du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Ce témoignage extrait de l'anabase d'Alexandre d'Arien, il est très important pour nous. Il permet de jeter un éclairage différent sur les autres sacrifices mentionnés par Diodore et Plutarque. Après avoir sacrifié à Athéna Ilias, principale divinité des Iliens, Alexandre rend donc également hommage à Priam sur l'autel de Zeus Herkaios. Cet autel, il est déjà mentionné dans l'Iliade, qui le situe à l'intérieur du palais de Priam. Il est surtout célèbre pour avoir été le lieu donc, d'un sacrilège commis par Néoptolème lors de la prise de Troie. Néoptolème, en effet, donc, autre ancêtre d'Alexandre, puisque fils d'Achille, est unanimement reconnu comme le meurtrier de Priam. Mais il aurait, selon certaines sources, aggravé son cas en commettant son crime sur l'autel même de Zeus Herkaios, auprès duquel le vieux Priam avait cherché refuge. Et Alexandre avait forcément connaissance de ces versions, transmises par Euripide, par Pindare, là on a pléthore de références antiques, et dont on sait qu'il tenait l'œuvre en haute estime, l'œuvre de Pindare notamment. Souvenez-vous que Pindare, la maison de Pindare a été épargnée lorsque Thèbes a été rasée par Alexandre. Cette version aggravante, elle est par ailleurs bien connue par l'iconographie. Ça, c'est intéressant parce que notamment l'iconographie des amphores et des céramiques peintes des 5e, 4e siècles, dont certaines sont tout à fait contemporaines du règne d'Alexandre. Elles ont largement diffusé la représentation du meurtre de Priam sur l'autel même. Un exemple ici, le meurtre de Priam et d'Astyanax, qui fait d'une pierre deux coups, en quelque sorte, par Néoptolème, sur l'autel de Zeus Herkaios. Vous voyez que donc Priam, il se réfugie sur l'autel, sur le Bomos, et Néoptolème, il assassine donc ce vieillard avec une arme très particulière, parce que si vous voyez ce qu'il tient dans la main, c'est le corps d'Astyanax. Donc il frappe le grand-père avec le corps du petit-fils. C'est une rupture totale de tous les codes de la guerre hoplitique, et donc c'est effectivement un sacrilège très choquant et représenté ici de manière tout à fait frappante, si j'ose dire. Donc nous avons ici un exemple parmi d'autres. Je ne donne que celui-là, mais c'est une amphore à figure noire de la toute fin du VIe siècle. Elle est conservée au musée du Louvre, mais on en a d'autres, et notamment du dernier tiers du IVe siècle, et donc contemporain d'Alexandre. Alors, par cet énagisma, ce sacrifice expiatoire, Alexandre se débarrasse donc de l'énagès qui pesait sur lui, en conséquence d'un principe qui est très important dans les mentalités grecques, c'est le principe de l'hérédité des mérites et des tares, qui se transmettent par le génos. Par la famille de génération en génération. Cela n'est possible que parce que les Iliens, fiers de leur identité troyenne, lui présentent justement cet autel décrit par Homère. Il peut y aller. Les guides touristiques, si on peut dire, lui disent, voilà, l'autel de Sarcaïos, il est là, c'est celui de l'Iliade. C'est là qu'a été tué Priam, donc c'est parfait. Toi, descendant de Néoptolème, tu peux maintenant réparer le sacrilège. Cet autel de Sarcaïos, alors il n'a pas laissé de traces archéologiques, contrairement à ce que Schliemann avait voulu affirmer, Schliemann qui a découvert beaucoup de choses à Troie, vous le savez sans doute, il prétendait aussi avoir retrouvé l'autel de Zeus Herkaios, bon, mais cela a été largement démenti. Et cependant, il y avait bien quelque chose à l'époque hellénistique et à l'époque romaine, parce que Lucain, par exemple, rapporte que César, lors de sa propre visite à Ilion, peut encore se recueillir sur les ruines de l'autel de Zeus Herkaios, par exemple. Alors, là encore, il ne s'agit pas de dire que ce sont des objets archéologiques qui datent d'un événement historique qui serait la guerre de Troie. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que ce sont des lieux d'équipement du culte ilien qui sont présentés comme des objets archéologiques et dont l'authenticité est reconnue par Alexandre et les Macédoniens, comme les boucliers qui sont pris dans le sanctuaire d'Athénaïas. Donc la signification des sacrifices organisés par Alexandre à Athénaïa, justement, elle-même, à mon avis, elle peut être réinterprétée à la lumière de ces précédentes remarques. D'abord, il est évident qu'il s'agit là d'un véritable acte politique, et non d'une simple visite sentimentale, comme l'écrivent parfois certains auteurs. Le geste d'Alexandre, on peut le comprendre non seulement comme une imitation de Xerxès également, mais plus largement dans une dialectique qui le lie aux autres personnes célèbres qui ont sacrifié avant lui à Ilion. Je ne détaille pas davantage ce point ici. Le lien cependant avec les Perses, il peut être... Alors, je reprends... j'aurais dû insérer ici à nouveau le texte de Diodore, donc celui que vous avez en début de diaporama. En effet, on peut prendre un autre point donc dans la citation de Diodore, c'est cette question donc de la statue du satrape renversée. Donc, selon la version rapportée par Diodore, la visite d'Alexandre au 5 heures à Thanaïa, c'est l'occasion d'un présage favorable qui annonce sa victoire contre les Perses. Donc, je cite, hein, « Le roi leva le camp pour quitter la Troade. Comme il était parvenu au sanctuaire d'Athéna, le sacrificateur Alexandros, un nom intéressant sur lequel on pourra revenir si vous voulez, remarqua, gisant à terre devant le temple, une statue d'Ario Barzanès, un ancien satrape de Phrygie. D'autres présages de bon augure s'étant encore produits, il vint trouver le roi, affirmant énergiquement qu'il remporterait la victoire dans un grand combat équestre si la chance voulait que ce combat eût lieu en Phrygie. » Donc, c'est le présage qui annonce la bataille du Granic. D'où l'importance pour Strabon, vous voyez, de nier, hein, et de retourner la chronologie, parce que tout cela n'a plus de sens à partir du moment où on place la visite d'Alexandre après le Granic. Alors, Ario Barzanès, il a été satrape dans la première moitié du IVe siècle. Et le fait, qui n'est pas relevé par les commentateurs, à ma connaissance, c'est tout de même un point très important, je crois, le fait qu'il se soit fait ériger une statue à son effigie dans le sanctuaire d'Athéna Elias, est révélateur des bonnes relations entretenues entre Ilion et le pouvoir achéménide, dans la lignée du grand sacrifice offert par Xerxès à Athéna Elias. Pourquoi cette statue gît-elle à terre au moment de la visite d'Alexandre? Elle n'a manifestement pas été renversée par les soldats macédoniens, puisque cela ne correspond pas à l'attitude d'Alexandre vis-à-vis du sanctuaire. Et si l'on suit Diodore, cette statue, elle se trouve à terre au moment où arrive le macédonien. Alors, elle a pu être renversée par les troupes de Parménion à l'occasion des combats livrés en Troade 2 ans avant, hein, 1 an et demi avant, en 336-335, dans l'expédition lancée déjà par Philippe II. C'est une hypothèse. Et on sait en effet qu'à l'occasion de la prise de certaines cités grecques, hein, dans l'expédition de Parménion, Parménion avait fait ériger les statues de Philippe II, notamment dans le sanctuaire d'Artémis d'Éphèse, par exemple. Donc, on aurait pu renverser la statue du satrape à cette occasion. L'hypothèse semble plausible, et le renversement de ces statues aurait donc valeur de symbole du renversement d'autorité à l'initiative des Macédoniens. Mais rien ne nous indique qu'une statue de Philippe II ait été consacrée dans le sanctuaire d'Athéna Elias. Bon, si tel avait été le cas, on peut supposer au moins, hein, vu tout de même la pression documentaire que nous avons, que la chose aurait été mentionnée. Non, on pourrait plutôt imaginer que la statue a été renversée par les Iliens eux-mêmes, anticipant ainsi la venue du nouveau conquérant. Et cela expliquerait que les Macédoniens n'aient pas eu connaissance de cette statue et qu'ils la découvrent au moment même de la visite. Une sorte de coup de théâtre organisé par les Iliens à nouveau. Et cela renforcerait l'hypothèse que le personnage qui attire l'attention du Macédonien sur cette statue soit un Ilien, du nom d'Alexandre, hein, le sacrificateur Alexandros, et non l'Aristandros de Telmessos, qu'on introduit par une correction du texte, hein, de Diodore à cet endroit, encore en corrigeant la leçon des manuscrits. Mais ça, c'est un point un peu technique sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez. Toujours dans cette perspective de Nagisma, Alexandre consacre, on l'a vu, ses propres armes dans le sanctuaire d'Athéna Elias, et en échange, les Iliens lui remettent, à lui et à ses gardes d'élite et les hypaspistes, des boucliers consacrés dans le sanctuaire. Alors, là, on peut presque parler d'initiative ilienne, d'où la transition vers notre troisième partie, mais qui ici sera beaucoup plus bref, puisque c'est moins le cœur du sujet, mais simplement c'est pour vous montrer comment on peut mettre en perspective les choses, la signification de la visite du point de vue d'Ilion. Il y a en effet une publicité forte accordée au culte civique ilien à cette occasion. Ces objets de culte, hein, qui sont consacrés dans le sanctuaire d'Athéna Elias, ils vont voyager ensuite, hein, ces boucliers. Le témoignage d'Arien est très important parce qu'il met en scène une action héroïque de Ptolémée qui sauve Alexandre lors des très difficiles combats menés en Bactriane. Et justement, Ptolémée, il couvre le corps d'Alexandre d'un bouclier pris à Troie. Donc ça, c'est une mention qu'on a chez Arien, sans doute du fait qu'il puise à la source de Ptolémée, et qui fait le lien avec cet échange de boucliers qui a eu lieu à Troie. Et donc, pour les Iliens, c'est une formidable publicité, hein, si on prend le point de vue civique ici. Du point de vue de l'équipement du culte, on peut revenir sur cette mention du Zeus Herkaios. On a trouvé, donc ça ce sont les fouilles de l'époque de Dorfel, le successeur de Schliemann, une tête, hein, une statue colossale de Zeus, sans doute Zeus Herkaios, c'est l'hypothèse de Dorfeld. Et pourquoi, sur quoi se fonde-t-elle? Eh bien, sur l'existence d'une dédicace à Zeus Herkaios. Alors, elle est tardive, hein, d'époque impériale tardive. C'est sur la base d'une colonne votive. Donc, Ekratiste boule, Uper Tukoinu, Herkeio di Propatori, le conseil souverain au nom de la cité à Zeus Herkaios ancestrale. Le terme de Propatori, donc Propator, est important ici, et il montre l'importance du culte de Zeus Herkaios à Ilion. Donc, on voit la conjonction entre la propagande d'Alexandre et l'équipement du culte ilien tel qu'il peut être documenté, hein, par l'archéologie ou l'épigraphie. De même, la numismatique peut nous aider. On connaît des représentations originales d'Athéna Ilias portant le Palladion sur les monnaies au nom et au type d'Athéna Ilias. Donc, ce sont des monnaies que l'on peut considérer comme civiques ou panégyriques. Je ne rentre pas dans ce débat ici, et qui permettent de faire le lien, là encore, avec le récit de la visite d'Alexandre à Ilion. Cela renvoie à d'autres sacrilèges commis lors de l'Iliou Persis, lors de la prise de Troie, hein, notamment le viol de Cassandre, alors qu'elle elle cherche à se protéger en enserrant le Palladion. Donc ce sont en gros les deux sacrilèges les plus célèbres de la prise de Troie, hein, le meurtre de Priam et le viol de Cassandre. Et donc c'est tout cela qui peut être considéré comme expié par les sacrifices célébrés par Alexandre. Du point de vue géopolitique également, donc la volonté d'Alexandre d'expier ses crimes et de reconnaître l'identité troyenne d'Ilion, mais aussi de d'autres cités de la région, comme Skepsis, qui le revendique via Démétrios et donc par l'intermédiaire de Strabon, comme on l'a vu, renvoie à la volonté de créer, alors ça c'est le témoignage de Strabon, là encore qu'on peut solliciter, hein, de créer, du vivant même d'Alexandre, hein, par une lettre écrite, rédigée de Babylone et envoyée aux Iliens à la fin, donc au moment où l'Empire perse et l'Empire achéménide est entièrement détruit, la création donc de concours en l'honneur d'Athéna Ilias, qui peuvent être considérés comme à l'origine du Koinon d'Athéna Ilias, dans la Confédération d'Athéna Ilias, qui regroupe plusieurs de cités de Troade et même d'au-delà. Vous avez ici sur la carte que je vous propose les attestations épigraphiques des différentes cités qui participent au concours et à la panégyrie. Et donc, là encore, cette expiation, elle a une signification politique et pour Alexandre et pour les cités. En conclusion et en ouverture, si vous voulez, la signification expiatoire mettant en scène Priam doit aussi être prise en compte, doit aussi être considérée, pardon, en prenant en compte la version locale des mythes liés à Priam. Alors, on dispose de ce point de vue d'une inscription qui avait été rapportée par Choiseul Gouffier, qui est donc conservée, vous voyez ici, dans les réserves du musée du Louvre, où j'avais pu la consulter. Donc, en voici la photographie. Voici la traduction que je vous propose. Donc, c'est l'épigramme d'une base de statue de Priam. Et après le glaive de mon fils qui tuait les ennemis, j'ai défendu la patrie et j'ai fait périr Achille, grâce à la ruse qu'enseigne la vieillesse. Pendant 10 années, j'ai tenu tête à l'armée de tous les Grecs, mais contre le fil du destin, personne ne peut rien. Il y a peut-être quelque chose qui vous surprend là-dedans. Vous ne le saviez peut-être pas. On l'apprend en lisant cet épigramme. Priam est présenté ici comme le meurtrier d'Achille. C'est un sacré renversement par rapport à la à la version majoritaire hein, qui circule vis-à-vis de l'Iliou Persis. Et donc, le fait qu'une mémoire locale spécifique ait pu survivre à Ilion, et là on en a donc un exemple avec cette inscription, donne, je crois, hein, tout son sens, nous permet de mesurer toute la richesse de la signification de ces sacrifices d'Alexandre, mettant en scène son lien à Priam via les nagues qui pèsent sur lui du fait de son appartenance revendiquée au Génos héroïque d'Achille. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons faire comme tout à l'heure, je vous propose de faire un applaudissement virtuel. Voilà. Alors, il y a un effet. Mais... Voilà, merci. Edith. Faisons comme tout à l'heure, laissons pour le moment la parole aux étudiants s'ils ont des questions. Écoutez, s'il n'y a pas de questions d'étudiants, on va laisser les autres poser des questions. Peut-être que Edith, tu veux prendre la main ?
Voilà, excusez-moi, je ne trouvais plus le micro. Oui, j'ai plein de questions à poser à William, mais je vais limiter. Avant de poser des questions, je voudrais insister sur un point que tu développeras peut-être davantage. Et puis poser deux ou trois questions précises. Le point qui me paraît essentiel du point de vue de la notion d'impiété, c'est de voir à quel point dans la tradition grecque, dans la culture grecque, le thème de l'hérédité de la faute est essentiel. L'hérédité de l'impiété, l'hérédité de la souillure, et quelque chose auquel nul n'échappe et qui doit être, qui doit être réparé par un sacrifice analogue à la gravité de la souillure. Donc une mort infâme ne pourra être réparée que par une mort également. Et juste, enfin, à l'intention des étudiants, je rappelle que lorsque les Athéniens et les Spartiates sont entrés en guerre, enfin dans la Ligue du Péloponnèse et la Ligue de Délos lors de la guerre du Péloponnèse au 5e siècle, l'un des éléments de la propagande belliciste, enfin de la propagande spartiate, c'était la souillure des Alcméonides, c'est-à-dire que la famille athénienne des Alcméonides avait commis une souillure dont les Athéniens restaient responsables. Enfin, donc c'est quelque chose qui entre dans les arguments, dans la propagande, y compris de la diplomatie grecque. Et cette hérédité, mais en fait, c'est la question de l'hérédité en général, parce que s'il y a hérédité de la souillure, donc Alexandre étant le descendant d'Achille hérite de la souillure du sacrilège commis par Néoptolème, fils d'Achille, lorsqu'il a tué Priam sur l'autel de Zeus Herkéios par le marché, mais même le simple meurtre du vieillard est déjà une souillure, mais en même temps, il hérite aussi du prestige et des mérites d'Achille. Donc, Alexandre, c'est aussi le nouvel Achille, c'est-à-dire qu'il est à la fois le nouvel Achille et le nouveau Néoptolème. Le nouvel Achille qui va qui va lui permettre de conquérir la ligne, pas seulement la Troade, mais aussi, bien sûr, le nouveau Néoptolème, ce qui lui impose cette réparation. Alors, donc ça, c'était juste sur le thème de l'hérédité, qui donc, pour la thématique générale de l'impiété qu'on est en train d'étudier, me paraît important. Et sinon, donc, je voulais poser juste des petites questions vraiment très, très concrètes. L'épiclèse de Zeus Herkéios. Bon, elle est courante, mais elle n'est même pas très, très fréquente. Pour autant que je sache, ça signifie le Zeus de la limite de la clôture de l'enceinte. Donc, c'est l'idée que c'est le Zeus qui protège. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu le Zeus qui protège, je suppose, peut-être les remparts de la cité ou quelque chose comme ça. Et à ce propos, oui, je voudrais présenter mes excuses. Bon, personne n'y a fait attention, mais comme j'ai dit une bêtise, je tiens à m'en excuser. J'ai fait un lapsus dans ma présentation en disant qu'Achille avait été tué par Hector. Non, Achille a tué Hector. Hein. C'est Achille, comme tu l'as dit, a été tué par Paris. Paris, qui s'appelle Alexandre, bien sûr. Hein. Il est tué par une flèche au talon. Hein, bien sûr, le talon d'Achille. Alors, ça, c'est une petite question sur Zeus Herkéios et une autre aussi très mineure ou pas. Pourquoi le prêtre d'Ilion s'appelle-t-il Alexandre? Est-ce que le nom d'Alexandre est un nom traditionnel? C'est plus tard, je ne me souviens plus si c'est dans Diodore ou dans plus tard, je n'ai pas fait attention. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'important sur le nom d'Alexandre ou est-ce que c'est simplement l'historien qui fait un jeu de miroir? Et en fait, dernière remarque, là, c'est simplement une remarque. Je veux juste faire remarquer aussi à l'intention des étudiants que dans la documentation réunie sur ce thème, les fragments jouent un rôle important. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles nous travaillons dans un autre cycle du séminaire du CRAM sur les sources fragmentaires et leur importance pour les historiens. Bon, voilà, merci.
Merci Edith pour ces remarques et ces questions. Alors pour les fragments, ah oui, ça, tu as bien raison, et qui mieux que toi d'ailleurs peut insister sur l'importance des fragments, hein. Donc ça c'est certain, l'édition des fragments est au cœur de la démarche philologique et de notre connaissance, hein, des sources classiques. En plus du point de vue de la méthode, évidemment, ces fragments étant la plupart du temps cités par d'autres auteurs, se joue la question de l'intertextualité, de la Quellenforschung, et donc du point de vue de notre discipline, c'est vraiment, je pense que c'est définitoire de notre pratique disciplinaire en fait. Hein. Donc ça, bien sûr, ça je ne peux que souscrire. Merci de rappeler également l'importance, bien sûr, tu as raison, diplomatique dans le monde grec de l'accusation de souillure, hein, des miasmas. Ça me permet de répondre aussi par la même occasion à Mathieu Plantade, hein, qui pose la question donc à l'échelle des cités. Ben, Edith, tu y as répondu, bien sûr, avec le bel exemple de l'accusation de Sparte vis-à-vis des Athéniens, et on peut en trouver d'autres, hein, et dès l'époque archaïque, hein, le thème de la souillure est utilisé dans les stasis, au sein des conflits civils, dans la diplomatie internationale, une cité contre l'autre. C'est la souillure des ancêtres qui peut justifier l'exclusion d'une partie du corps civique, hein, comme l'envoi de ces jeunes gens spartiates pour aller fonder Tarente, hein, parce qu'ils subissent la souillure dont ils sont responsables parce qu'ils sont les fils de leur père. On pourrait trouver des tas d'exemples, hein, comme ça, en effet. Donc notamment dans le domaine colonial, ce qui n'est pas inintéressant. Le mot grec contrôlé par souillure, alors ou enages, celui qu'on a vu, ou miasma, hein, beaucoup plus courant, miasma. Hein. Et donc, c'est pas anodin le rapprochement avec la colonisation, parce que la souillure justifie en fait souvent une conquête militaire. C'est le cas dans la tragédie classique, et on le voit aussi dans le cas de la conquête macédonienne. Moi, je pense que le dispositif le dispositif mis en place à cette occasion. Ce n'est pas un hasard si la souillure soit au cœur. Hein. La conquête, en fait, rétablit la pureté. Donc, parmi les nombreux prétextes qu'on peut trouver pour faire la guerre, le fait de rétablir une souillure, on peut rappeler évidemment le fait que la conquête macédonienne de l'Empire achéménide est une réparation du sacrilège de la destruction des temples grecs lors des guerres médiques. Donc, c'est toujours cela qu'on retrouve en dernière analyse. Alors, deux questions précises ensuite. Erchaios, oui. Alors, Erchaios, c'est très intéressant parce que on le considère souvent comme un dieu du foyer, hein, le protecteur du foyer. On le rattache à ce qu'on appelle souvent la religion familiale par opposition à la religion civique. Distinctions modernes qui sont sans doute très peu pertinentes. Et le cas de Zeus Erchaios d'Ilion en est un bel exemple parce que c'est une divinité éminemment civique, c'est même une divinité polyade peut-être, notamment dans l'inscription que je vous ai montrée. Hein. Donc il protège le foyer, oui, sans doute, mais il protège les remparts, en effet. Hein. Donc c'est la fameuse imbrication entre public et privé qui caractérise les cités grecques. Donc ça, effectivement, c'est une remarque très juste hein, que tu fais là. Et alors, Alexandros. Donc Alexandros, c'est ce qui est écrit dans les manuscrits, hein, c'est la leçon des manuscrits Alexandros, mais on le corrige, on le corrige même dans la cuf, et on le remplace par Aristandros, parce que c'est le prêtre qui accompagne Alexandre le Macédonien. Donc ce serait une sorte de coquille qu'il faudrait rectifier. Mais en fait, parce qu'on considère que ce prêtre, ce sacrificateur, le Magairos, est un Macédonien qui accompagne Alexandre. Mais en fait, ça peut très bien être un prêtre ilien. Et c'est ce que j'ai voulu montrer. Déjà à l'époque de Xerxès, on pourrait aussi citer le cas de Mandaros Spartiate. Moi, je pense qu'on peut tirer des textes l'idée qu'il y a des Iliens qui disent « Venez, on va vous montrer des choses que vous ne connaissez pas et qui peuvent vous servir. » Et donc, cet Alexandros peut très bien être un Ilien. Et donc, à ta question, le nom Alexandros dans l'onomastique ilienne, ah bah oui, il est courant. Et c'est même le nom d'une tribu, d'ailleurs, hein, d'une tribu au sein du corps civique ilien, ce qui n'est pas un hasard. Hein. Donc, on a une tribu... On a une tribu qui tire son d'Alexandros et donc on peut le trouver dans le LGPN, hein, dans le Lexicon of Greek Personal Names, hein, pour Ilion. Alors moi je vais t'amuser à faire les statistiques, ça vaut ce que ça vaut bien sûr. Hein, je pense qu'il faut pas les prendre au pied de la lettre, hein, mais on peut donc simplement on peut retenir ça. Je le donne comme ça, mais bon, ça, vu que nous n'avons que des fragments justement, faut pas forcément y accorder trop d'importance. Mais le nom Alexandros est plus fréquent à Ilion que dans la plupart des autres cités grecques. Bon, voilà. Je crois que j'ai répondu à toutes tes questions là.
Oui, mais merci beaucoup. C'est, ça complète tout à fait mes pensées qui vagabondent. Et bien sûr, est-ce que tu aurais le temps de développer un tout petit peu, on a 5 minutes, sauf s'il y a d'autres questions, mais cet épigramme où on fait, donc c'est une base de statues d'Ilion, donc c'est un dédicant ilien qui fait dire à Priam qu'il a fait périr Achille par la ruse.
Ouais.
Évidemment, parce que la ruse, c'est la flèche que Apollon a, la flèche de Paris qu'Apollon a dirigée vers le talon d'Achille. Mais oui, c'est tout à fait étonnant que le vieux Priam, qui est présenté comme la victime du fils d'Achille, revendique par une sorte de vengeance rétrospective, la mort d'Achille. Est-ce que tu pourrais juste dire quelques mots à ce sujet ?
Bah d'abord, c'est un document unique, hein, c'est très troublant. Et donc, plusieurs interprétations sont possibles, elles ne peuvent être qu'hypothétiques. Il y a celle que tu présentes dans ta question. On peut considérer que le père parle au nom de son fils. Hein. Finalement, il peut être considéré comme le meurtrier parce qu'il a engendré le meurtrier, et donc on retrouve le lien très fort hein, de responsabilité qui lie les pères aux fils et les fils aux pères. Ou alors on le prend au pied de la lettre, et donc c'est Priam lui-même qui a tué Achille par une ruse qu'enseigne la vieillesse. Alors c'est la mention de la vieillesse qui m'inciterait à aller dans ce sens. Donc là, il faut peut-être rappeler que la flèche qui tue Achille n'est pas n'importe laquelle, hein, c'est la flèche du héros Philoctète. Ce sont des flèches qui ont la caractéristique de ne jamais rater leur cible, et Philoctète est entraîné dans la guerre de Troie par tout un réseau très complexe de manipulation, lui qui ne voulait pas participer à cette guerre. Donc on a là peut-être un jeu érudit, hein, de références implicites qui serait bien dans le goût de ces épigrammes. Mais tout ça est hypothétique. Là, nous sommes nous sommes obligés de gloser un petit peu. En tout cas, on ne peut qu'attirer l'attention sur ce document, qui a le mérite d'offrir une version différente, hein, qui montre à minima qu'une version différente circulait. Et ça renvoie à la plasticité des mythes grecs, hein, ça c'est quelque chose qu'il faut jamais oublier. Il y a pas de, ce sont pas des textes sacrés. Au sens où il serait incontestable, il y a une très grande plasticité des mythes grecs et des contradictions qui nous gênent, nous, mais qui sans doute ne gênaient pas trop les anciens.
Merci beaucoup, William.
Bon, merci à vous. J'étais très heureux de te revoir, Edith, à cette occasion, hein, puisque je ne sais même pas si tu l'as mentionné, mais nous avons été collègues à l'université d'Angers avant ton arrivée à Caen, et donc c'était un plaisir pour moi de te revoir. Merci également à Serge Berdet pour sa très belle communication dont j'ai raté les 10 premières minutes, et merci à Alban Gauthier également pour l'organisation de ce séminaire, et désolé encore pour les problèmes techniques.
Il me semble qu'il y avait une question de Serge Berdet.
Si on a encore.
Ensuite, il y a une question qui est arrivée une question qui est arrivée sur le fil de discussion. Ça sera nos deux dernières questions, si vous le voulez bien.
Ah bon, oui. Maintenant, je peux m'effacer devant l'étudiant, il n'y a pas de problème.
Non, allez-y, posez votre question. Et...
Alors, Edith a parlé de l'hérédité du miasma, de la souillure, et de fait, vous avez présenté. Comme ça, en passant, Alexandre comme un descendant de Néoptolème. Alors, peut-être que si vous pouviez y revenir un petit peu, parce que ça n'a rien d'une évidence. Mm-hmm. Achille est lié à la Phtiotide, c'est-à-dire le sud de la Thessalie. Il n'a rien à voir avec la Macédoine géographiquement. Mm-hmm. Néoptolème est supposé être l'ancêtre fondateur des Éacides, c'est-à-dire la dynastie de l'Épire, la dynastie épirote. Alors, comment il se retrouve comme ancêtre fauteur de miasma d'Alexandre, et donc probablement de son père? Alors, la mère d'Alexandre était épirote, mais est-ce qu'on est redevable du miasma transmis par une femme? Qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi?
Alors, il y a une piste de réponse dans la question que vous posez. Sur la dernière question, oui, on est redevable du miasma transmis par une femme, et les tragiques grecs nous en donnent des exemples. Le lien entre Alexandre et Néoptolème, il passe par Achille. C'est parce qu'il se revendique descendant d'Achille qu'Alexandre doit assumer l'ensemble des mérites et des tares du génos d'Achille. Alors ensuite, c'est comme pour la plasticité des mythes qu'on évoquait tout à l'heure, je pense que les considérations géographiques, la plausibilité n'embarrassent pas les Grecs ni les Macédoniens. En revanche, le lien par la mer, par Olympias, c'est très important, parce qu'Olympias, on le sait, a joué un rôle majeur dans l'héroïsation, voire la divinisation de son fils. On sait qu'Alexandre est aussi parfois présenté comme fils de Zeus, et on sait également que Olympias, même après la mort d'Alexandre, a tenté de développer ce thème de propagande. Au sein des diadoques, d'ailleurs, hein, dans les luttes entre diadoques, le thème est repris. Et le nom même de Néoptolème est utilisé. Donc, je pense que il serait sans doute vain d'aller chercher un lien généalogique ancré dans une origine géographique. Donc, et effectivement, Phtiotide et Macédoine sont deux régions différentes. Et ce qui compte là, c'est la filiation mythique. C'est un peu comme les parentés légendaires entre cités, comme l'étudiant avait raison, hein, Mathieu Plantade, il a bien raison de poser la question à l'échelon civique. Les parentés légendaires entre civiques, parfois, elles défient toute logique géographique. Hein. On pourrait penser aussi aux parentés revendiquées entre juifs et spartiates, par exemple. Hein. Y aurait beaucoup. Hein. Donc, ce qui compte, c'est sans doute le lien revendiqué et ce qu'on veut en tirer. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Oui, tout à fait.
J'ajouterais qu'au Moyen-Âge, entre le XIIIe et le XVe siècle, plusieurs rois d'Écosse se nomment Alexandre parce qu'ils revendiquent une origine troyenne. L'origine troyenne des Bretons. Donc la logique géographique, je suis entièrement d'accord avec vous, n'est pas nécessairement... n'est pas la nôtre. Voilà, on va dire ça comme ça.
Le royaume de France aussi, la monarchie, oui, s'est réclamé.
Se réclame, mais là, les rois d'Écosse reprennent même le nom d'Alexandre.
Oui, ce qu'ils n'ont pas fait
normalement. Et suite Constantin au passage aussi, mais bon, c'est une autre affaire.
Je vois la question de l'étudiant. Alors, les concours d'Athéna, ils y ont au concours organisé par Athènes. Les grandes périodes de seconde université d'Athènes, c'est différent du concours international. Une partie du concours, c'est dans ce cas-là. On est quand même participé, aussi les étrangers participer. Oui. La différence fondamentale entre les panathénées athéniennes et les panathénées du Koinon d'Athénaïlias, c'est que l'un est un concours civique, l'autre est un concours fédéral. Donc il faut s'entendre par ce que vous appelez étranger. À Athènes, les choses sont très claires. Hein. Même si vous êtes membre de la Ligue de Délos, vous n'avez rien à faire dans les panathénées civiques. Hein. C'est la différence entre une summakia, une alliance militaire, et un koinon, qui est un état fédéral. Et donc, ou un embryon d'état fédéral, comme le koinon thébain, par exemple, ou le koinon béotien. Et donc, la confédération d'Athénaïlias, en tant que structure fédérale, eh bien, elle autorise l'ensemble des ressortissants des cités membres à participer aux concours fédéraux. Hein. Ça, c'est un point très important. Donc, ce sont des concours de nature différente.
Bien, il est 17h passé. Je crois que nous pouvons à nouveau remercier nos deux orateurs pour leur présentation, pour leur disponibilité dans ces conditions finalement pas très agréables, moins qu'on puisse dire. Et voilà, merci à tous les deux. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir participer à cette session, à cette séance de notre séminaire. Bien écoutez, nous nous retrouverons pour une prochaine séance du séminaire c'est très bientôt, j'ai plus la date précise. Et à l'automne prochain, je l'espère, pour une nouvelle séance de ce cycle sur l'impiété.
Et à l'automne prochain, ce sera peut-être en présence.
Croisons les doigts, voilà, croisons les doigts pour la fin de ce cauchemar.
Voilà. Au revoir à tous et merci beaucoup.
Au revoir. Merci à vous.